La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi, nous terminons notre thématique consacrée depuis lundi à Dashiell Hammett dans la compagnie des auteurs par le regard que portent sur lui deux écrivains de la série noire. La première s'appelle Dominique Manotti, historienne de formation. Elle a d'abord été enseignante et chercheuse. Elle se consacre aujourd'hui à l'écriture de romans noirs dans les pas de l'écrivain qu'elle admire peut-être le plus avec Hammett, c'est-à-dire James Ellroy. Le second, il s'appelle Jérôme Leroy. Il n'a pas écrit Le Faucon Maltais comme Dashiell Hammett, mais bien L'Orange de Malte. Et il s'intéresse en particulier au lien entre romans noirs et société. Et à 15h30, nous retrouverons la chronique de Christine Ferniaud du magazine Lire, dont le dossier est ce mois-ci consacré aux 10 meilleurs polars de l'année. Mais avant cela, comme tous les jours de cette semaine, nous consacrons l'ouverture de cette émission à écouter la biographie d'un homme ou d'une femme réfugiée grâce au travail de Licorne. Licorne qui s'occupe de trouver un asile aux écrivains et journalistes persécutés dans le monde et dont l'Assemblée Générale se tient en ce moment à Paris. Je vous propose d'écouter aujourd'hui la biographie du dramaturge, poète et romancier tchadien Koulsi Lamko.
On m'appelle Koulsi Lamko, Ngoka Mbao Kigajbis. J'adore ce nom de bataille que s'est choisi mon grand-père, Gajbis, corne de chien. Je suis né deux fois, mais véritablement né sur les terres du Guéra, au Tchad. Que chanter d'autre, sinon le pathétique paysage où l'enfance du poète accueillit les prémices du suc des fleurs sur les étamines. En ces lieux, la terre s'appelait Bagua. Bagua des collines damnées. Bagua des ruisseaux folâtrants entre les rochers à la robe de mousse verdâtre. Bagua des pépiments de mangemille, des escouades de corbeaux, du chant de la quenouille, rythmant le tumulte hoqueteux du métier à tisser. À Bagua, que l'on soit Dengla, Dajo, Diongor, Kenga ou Mubi, on s'appelle Adjaraï, c'est-à-dire habitant des rochers, montagnard, même moi, issu du clan Béjou, des Mbeï du sud du Tchad. Oui, à Bagua, l'homme est fils de la montagne mère, celle qui couvre de ses entrailles la vie, lorsque l'on se réfugie dans les grottes pour se protéger des hordes de pillards et d'esclavagistes. Ici, l'homme vit de ce que ses doigts arrachent à la montagne et à ses vallées, ses ruisseaux, ses plaines marécageuses, ses épineux. L'homme vit de la création autour de lui, mais aussi en lui. Je naviguais alors entre le mystère des doigts de la main et celui des pieds. Des doigts qui tissent, façonnent, frappent, pêchent, chassent, sèment, traient, caressent, tordent, guérissent. Et les pieds qui piétinent, marchent, courent, gambadent, s'arc-boutent. Qui suis-je? Que serais-je? Tisserand, pour couler entre la trame et la quenouille l'histoire de ma tribu? Non, c'est trop de patience. C'est potier que je veux devenir. Noble ouvrage où l'agilité de la dextre comme un défi à la création modèle la glaise et à la chair molle donne vie, couleur, forme et charme. Potier? Non, c'est trop de science. Je voudrais plutôt que l'on me désigne cultivateur. Ah, la séduction de ces corps d'ébène alignés au kumbit, ces corps noirs ruisselants de sueur, emportés par le zèle, l'ivresse de la terre et ses odeurs mouillées, la magie des épis dorés de mil et de maïs. Semer, être le magicien qui, de la main agile, remue la matrice de la terre féconde, multiplie le grain par cent, par mille, par autant de bouches qui se délecteront chaque soir du fruit des amours entre la terre, le soleil et l'eau. Agriculteur? Non, c'est trop d'espérance. Je voudrais également posséder les pieds qui marchent, les pieds de l'éleveur qui marche au pas du soleil dans sa randonnée quotidienne. Mon grand-père était un fabricant de pluie, et surtout, savait arracher les âmes faiblardes et divisées des griffes de la possession. Il devinait à leurs effluves la vertu des feuilles et des racines salvatrices. manié par une imperturbable magie, ses bâtonnets de divination sondaient la vérité dissimulée au regard profane. Lui guérissait le corps et l'âme. Je voulais, comme ce géant, mon grand-père, posséder l'œil qui plonge dans le secret de la rivière, l'œil qui escalade les versants d'Aptouyour, surprend les pics où nichent dans de gigantesques gîtes les pélicans. Aurais-je pu avoir cet œil ? Non. Déjà le doute m'était enseigné. Le doute, cette thé aveuglante, cette logique qui, en voulant tout éclairer, rend tout opaque. Être faiseur de pluie ou devin guérisseur, c'était trop de confiance en l'harmonie vitale. Trop de foi en la symphonie de l'univers. Il emportera dans sa main fermée la sagesse lorsque la terre s'ouvrira pour l'accueillir. Hélas, c'est poète que je suis née. Sans doute accouchée par la brume sur la montagne et le clapotis du ruisseau sur les galets. Accouchée par la psalmodie de la quenouille et le hêlement du pâtre, le vrombissement de sa houlette réglant la marche du troupeau, la mélopée de la ménagère sur sa meule, l'invective du calao dans le profond silence des étoiles. Et puis à 6 ans, je découvrais l'odieuse machination, l'irrésistible bassesse de l'âme humaine, son insatiable désir de posséder, la cruauté de ceux qui bavent de pouvoir. J'ai vu, à Mangalmé, le rasoir raser sans délicatesse la chevelure des belles femmes accroupies sous un soleil de plomb devant la préfecture. J'ai entendu les cris déchirants des bébés accrochés au sein de leur mère maltraitée. J'ai senti le fouet claquer sur le dos des hommes, le tesson de bouteille sillonner leur chair. C'étaient des paysans excédés par les multiples impôts que les notables exigeaient d'eux et qui avaient dit « suffit ». C'étaient mes paysans. Et puis j'ai vu des têtes tranchées, des corps brûlés, sur tous les territoires de la vie. Puisque poète je suis né, donc guérisseur de mon destin et des cœurs, terni par l'avalanche et la folle distorsion des jours d'huit qui déchantent, qui bataillent. Poète, l'âme retorse d'une révolte, oui, du refus. Puisque l'harmonie a éclaté et sa chair rouge dispersée a éclaboussé la latérite, et les viscères sanguinolents coule vers le ruisseau, et le ruisseau se teint de pourpre en gémissant, étouffé par la pestilence des cadavres vermoulus. Ah, le monstre, la hideuse méduse suceuse de sang de la terre, la guerre. Poète, faiblesse d'un bras atrophié, non malaxeur, vagabondage, errance, transhumance perpétuelle d'un pied beau non marcheur, lourdingue. Poète, fragile, frêle, frileux, à valeur de rêve éveillé et de confusion.
Just imagine, 4 murders, all strangulation, no fingerprints, no clues. The police were baffled.
Yes, of course.
All they had were 4 bodies. So what did they do? They dumped the whole thing in Nick's lap.
I see.
Nobody suspected Stinky. Because he'd been a cripple ever since some nitro went off while he was cracking a canister in Salt Lake.
Bonjour Dominique Manotti.
Bonjour.
Alors, il suffit d'entendre quelques secondes de ce film L'Introuvable, adapté du roman The Thin Man, pour retrouver une atmosphère à la Hammett. Mais comment mettre des mots sur ce que ça signifie, une atmosphère à la Hammett? Je sais que vous avez relu quasiment tout Hammett pour
cette émission. Non, pas tout, mais Moisson Rouge et La Clé de Verre, oui, c'est vrai.
Qu'est-ce que c'est alors que
l'atmosphère si vous voulez, l'atmosphère à la Hammett, c'est des phrases extrêmement courtes, c'est des mots simples, beaucoup de noms, beaucoup de verbes, pas d'adjectifs ou très peu d'adjectifs, c'est des mots qui font image et une action tendue en permanence, des dialogues très courts. Une action tendue en permanence, ce qui fait que à la fin de la scène, on a complètement visualisé. Et c'est vrai que les rapports avec le cinéma sont très très forts. C'est une littérature qui a des rapports existentiels, essentialistes avec le cinéma.
Existentiel.
Oui, existentiel. Ben il écrit au moment où naît le cinéma, et il écrit beaucoup pour le cinéma, mais il est à son tour extrêmement influencé par le cinéma.
On dirait que vous l'avez lu presque crayon en main pour l'étudier.
Je crois que j'ai été assez imbibée Bon, les influences, vous savez, c'est toujours difficile à... C'est pas forcément très volontaire. On lit pas quelqu'un pour être influencé. Mais on lit quelqu'un et puis on se trouve dans le feeling, on se trouve dans le ton juste, on se trouve en accord. Et à ce moment-là, l'influence se fait quasiment inconsciemment. Et je pense que Dashiell Hammett m'a beaucoup influencé.
Et alors, quand vous avez relu pour nous,
oui.
Merci encore, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé, des choses que vous avez redécouvertes, vous avez dit, ah mais ça, j'avais pas fait attention que c'était fait de cette manière.
Oui, c'est la différence entre Moisson Rouge et La Clé de Verre.
Moisson Rouge étant antérieur à La Clé de Verre.
Oui, Moisson Rouge est le premier grand. La Clé de Verre, le troisième. Entre les deux, il y a le Faucon Maltais. La Clé de Verre est absolument incroyable parce que c'est une espèce d'épure. C'est-à-dire que on ne sait pas du tout, finalement. Alors, c'est d'abord le fond de l'histoire, c'est une campagne électorale. Il faut quand même être gonflé. Bon, ensuite...
Pourquoi gonflé ?
Parce que c'est pas courant dans le roman noir. Bon... ensuite, si vous voulez, c'est absolument extraordinaire parce que le personnage central, on ne sait pas du tout quel a été son passé, on ne sait pas du tout quel sera son avenir, et on ne sait même pas du tout quelle place exactement il occupe dans le champ électoral. Quand on lui demande « Mais quel genre d'homme êtes-vous ?», il répond « Je suis un joueur professionnel qui vit au crochet d'un homme politique. » Et l'homme politique en question... En fait, il semble bien, on n'a jamais de précision, mais il semble bien que c'est le gangster du coin. C'est-à-dire, c'est celui qui tient les tripots, la vente de l'alcool, les travaux publics, bon. Donc, tout ça fait une espèce d'épure du roman noir. Et je trouve ça vraiment remarquable.
Plus remarquable que...
Alors, Moisson Rouge, c'est autre chose. C'est beaucoup plus... comment on va dire ? Beaucoup plus sanguin, mais pas sanguin au sens de sanglant, mais la matière est beaucoup plus palpable. Il y en a un qui est une matière très palpable et l'autre qui est une épure.
We'll take a trip, gonna take a journey, baby. We'll take a trip, gonna take a journey, baby.
Five times, baby, time to hit the road to dreamland. You're my baby. Dig in the land of night. Hold tight, baby. We'll be swinging up in dreamland all night, baby. Where the little cherubs trot. Look at that knocked out moon. Been a blowing his top in the blue.
Never saw the likes of you. What a girl, what a girl.
Time to hit the road to dreamland. Don't cry, baby. It was divine, but the rooster has finally crowed. Time to hit the road. Time to hit the road. Time to hit the road. Time to hit the road.
Alors, on sait, Dominique Manotti, que vous aimez particulièrement Elroy, James Elroy. Quelle est sa filiation avec Hammett? Parce que il y a peut-être un continuum, Hammett, Elroy, Manotti.
Ah ben alors ça serait formidable, mais j'aimerais beaucoup.
Mais je suis dans pas l'inspiration, sûre. Non?
Je suis pas sûre. Dans l'inspiration, oui, certainement. Mais je suis pas sûre d'être à la hauteur, malheureusement. Bon, non. Oui, il y a un continuum, en tout cas, Hammett, Elroy. Elroy se revendique clairement d'Hammett. En gros, vous avez... La filière à
la
mettre.
Filiale, vous parlez comme quelqu'un qui a écrit sur des grandes entreprises.
Oui, exactement. La filière à mettre et la filière Chandler, c'est pas la même chose. Et Elroy est clairement dans la filière à mettre. Et moi aussi.
Et pour quelle raison alors?
Parce que à mettre a des personnages infiniment plus noirs. C'est-à-dire que les personnages centraux des romans d'Hammett ne sont jamais des détectives qu'on peut admirer d'une façon ou d'une autre. Elroy a dit les détectives de Chandler, c'est les hommes qu'il aimerait être. Et les détectives d'Ahmet, c'est les hommes qu'il a peur d'être. Et je crois que c'est exactement ça. Et moi, j'aime beaucoup qu'on me présente et qu'on me raconte la vie de personnages avec lesquels je ne m'identifie pas, mais avec lesquels je suis obligée de reconnaître que j'ai de l'empathie.
Qui sont des potentialités de vous-même.
Qui sont des potentialités, exactement. Qui sont des potentialités, et c'est là qu'on est en plein dans le vrai noir, quoi.
Parce que finalement, la vision de Moisson Rouge, c'est-à-dire l'idée d'une Amérique aux mains des gangsters, c'est un peu la même que celle d'Elroy, mais plus tard, dans les années 60-70.
Mais la réalité a changé. La réalité a changé, c'est ça aussi qui est remarquable chez Ahmet, c'est qu'il s'attaque à la réalité exacte de son pays à ce moment-là. On est en pleine prohibition. Les villes américaines, avec leur vague d'immigration extrêmement importante, sont aux mains des mafias. Elles sont aux mains des mafias et les hommes politiques gèrent la ville à travers la mafia. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est un complexe. C'est pas d'un côté les gangsters et de l'autre les politiques, c'est les politiques gèrent la ville à travers les gangsters et les gangsters gèrent leurs affaires grâce aux politiques. Donc tout ça se tient, c'est vraiment un système. Et c'est en tant que système qu'il le décrit. Donc je trouve que c'est formidable de faire de romans de son époque.
D'ailleurs, on se demande même à quel point il n'aurait pas pu être un journaliste d'investigation aussi. Est-ce qu'il n'y a pas, puisque c'est un regard quand même sur l'époque, ce roman noir, est-ce que le journalisme n'aurait pas été un biais finalement pour lui?
Et qui l'aurait publié?
Les journaux de Hearst.
Hearst,
oui.
Oh, vous rigolez. Non, vous rigolez. Hearst possède en grande partie les gangsters de Chicago. Il faut quand même pas.
Mais il adorait Dashiell Hammett.
Oui, il adorait Dashiell Hammett. Oui, absolument. Mais il l'aurait pas publié comme journaliste. Il y a un monde entre les deux.
Il y a aussi quelque chose qui rapproche sans doute ces deux écrivains que vous aimez particulièrement, c'est que ce ne sont pas des sentimentaux. Et puis, ce ne sont pas des héros positifs.
Exact.
Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez aussi gardé pour vous, qui vous a imprégné ou qui vous a
complètement
intéressé?
Complètement. Complètement. Alors, Ahmet est un... Vraiment, il va jusqu'au bout de l'absence de psychologie. Je veux dire, il n'y a pas une touche de psychologie dans ses romans. Elroy, c'est pas exactement la même chose. Il a le même principe de base, absolument. C'est-à-dire, les hommes se définissent en société par les actions qu'ils font et les rapports qu'ils ont avec les gens, pas avec ce qu'ils pensent dans leur tête.
C'est de la sociologie, presque?
Oui. C'est de la psychologie, c'est de la sociologie qui refuse la démarche psychologique. C'est-à-dire, les gens sont ce qu'ils font. Et les rapports qu'ils ont avec les gens, avec les autres. On est des êtres sociaux, et on vit en société, on se définit comme ça, pour ces auteurs-là, et pour moi aussi. Et si vous voulez, la touche psychologique que rajoute Elroy rajoute une certaine épaisseur que Ahmet gomme totalement. Mais moi aussi, je suis un peu sur la même ligne. J'essaye de faire un petit peu la même chose. Mais le fond de la vision du monde est la même.
Mais du coup, est-ce que ça n'assèche pas aussi un petit peu? Parce que à partir du moment où on ne fait que décrire des gestes, décrire des faits, et qu'on n'a pas en face de nous une personnalité avec un peu de psychologie, comme c'est quand même le cas dans la vraie vie, est-ce que on ne crée pas un style un peu plus sec que nécessaire?
Ahmet est sec. Justement, Elroy a essayé de rajouter la touche qu'il faut pour que ce soit vraiment chaud et vraiment vivant. Mais ceci dit, la psychologie, c'est quand même...
Ça vous plaît pas, vous, la psychologie?
C'est aléatoire. Je veux dire, on peut se raconter absolument ce qu'on veut et l'auteur peut se raconter ce qu'il veut.
Moi, ce qui me plaît beaucoup dans Ahmet, c'est que j'aime les gens qui sont fragiles physiquement et extraordinairement forts moralement. Alors qu'on a vu des gros balèzes se dégonfler comme des lopettes à la, à la, à la commission des activités anti-américaines de McCarthy et Nixon, à mettre, les envoyer sur les roses avec une violence absolument infernale qui lui a permis de faire un peu de tôle d'ailleurs. Mais ça, je trouve ça magnifique. Pas de faire de la tôle, mais d'avoir le courage. Surtout que c'était un type physiquement faible de faire ça. C'est vrai que Ahmet, bon, tous ses romans sont plus ou moins politiques. C'est un type qui était réellement fortement engagé. Et je veux dire qu'on ne peut vraiment comprendre toute cette partie de son œuvre que si on analyse bien ce qu'était le Parti communiste américain, ce qu'est le Parti démocrate, ce qu'on appelle un libéral aux États-Unis, qui sont des choses complètement différentes. Ce sont des termes qui ne recouvrent pas les mêmes choses qu'en Europe en général, et en tout cas en France en particulier. Donc je crois que toute cette partie-là nous échappe. Par exemple, dans un livre aussi complètement et purement politique que La Clé de Verre, par exemple, les rapports entre Ned Beaumont et je ne me souviens plus le nom de son patron, là, enfin, ne sont compréhensibles que dans un contexte politique américain très précis. Et ça, faut savoir. Je veux dire que la date des œuvres de Ahmet est très importante, et je trouve absolument normal qu'il ait pratiquement cessé d'écrire, outre son qu'il n'en ait plus envie, mais pratiquement cessé d'écrire des ouvrages à partir de 35-36, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le New Deal a fini par mettre en place un système finalement plus proche de ce qu'il espérait que celui qui existait. Donc comme c'était une force critique, et vraisemblablement pas une force apologétique, il est normal qu'il se taise partiellement.
C'est Claude Chabrol en archive qui dit que si Ahmet a arrêté d'écrire, c'est parce qu'il était satisfait finalement de la politique américaine du New Deal et que du coup il n'avait plus rien à dire. Bon, je suis pas sûr que l'analyse ici de Claude Chabrol, qui a sans doute été pris sur le vif, soit exactement la bonne. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, Dominique Manotti. En tous les cas, il est vrai qu'il y a une correspondance chez Ahmet entre l'histoire politique de son pays et même du monde et ses romans.
Ça, c'est absolument sûr. Maintenant, ce que Ahmet pensait de l'expérience Roosevelt, moi, personnellement, il ne m'en a jamais parlé et
non.
J'ai rien lu là-dessus. Donc, je vais être prudente.
En tout cas, le roman noir, c'est un roman politique.
Ah, mais le roman noir est un roman absolument politique. Enfin, bon, dans ma conception des choses, c'est certain. Et puis Ahmet, c'était pas seulement le Parti communiste, comme le disait Chabrol. Ahmet, c'était aussi un ancien détective des Pinkerton. Et moi, je pense que la part de Pinkerton dans son œuvre est quand même très importante.
Mais pour vous, c'est toujours étudier les logiques de pouvoir de faire un roman noir. Vous-même, vous avez beaucoup travaillé ces thématiques-là. Vous avez travaillé la thématique de l'argent aussi, donc l'argent, le pouvoir.
C'est un peu pareil. Je n'arrive pas à m'en sortir. C'est pas un a priori. C'est pas un a priori. Et j'ai du mal à m'en sortir. J'espère échapper un jour.
Pourquoi vous regrettez ça?
Non, mais bon, peut-être qu'il y a d'autres choses intéressantes dans la vie, mais c'est vrai que je suis très marquée. Ben, la politique, c'est quand même très, très fortement des questions de pouvoir. En plus, dans nos sociétés, les lieux de pouvoir sont en train de changer très, très profondément. Et c'est intéressant d'essayer de comprendre et de saisir ce changement. Si vous voulez, c'est la même chose pour Ahmet. Ahmet, les lieux de pouvoir et les instruments de pouvoir atteignent une espèce de sommet au moment où il écrit. C'est-à-dire que la jonction profonde entre politique et mafia atteint son comble, vraiment. Les États-Unis sont gérés à travers les villes américaines sont gérées à travers les mafias.
Et puis c'est le moment de la Grande Dépression.
Oui, c'est le moment de la Grande Dépression, c'est le moment de la Prohibition, etc. C'est aussi le résultat de la vague d'immigration. Les vagues d'immigration aux États-Unis ont été colossales. Et le seul moyen qu'ont trouvé les il n'y a pas de mafia WASP, hein. Il y a des mafias juives, il y a des mafias italiennes, il y a des mafias irlandaises. Les mafias sont les instruments, les seuls instruments que les politiques aient trouvés pour gérer les vagues d'immigration. elles ont eu une fonction très sociale. Et on ne peut pas comprendre les États-Unis d'aujourd'hui si on ne comprend pas le rôle des mafias, le rôle profond. Ce n'est pas un phénomène marginal, les mafias.
Mais on ne trouve pas tellement cette notion de communauté chez Ahmed.
Non.
C'est la mafia, mais il ne cherche pas à distinguer un groupe par rapport à un autre.
Non, il ne le fait pas de façon explicite, absolument. Mais c'est quand même le premier qui raconte ces liens entre politique et mafia. Et moi, je vous dis, on ne peut pas comprendre l'histoire des États-Unis aujourd'hui si on n'a pas intégré profondément ce phénomène. Les États-Unis sont bienveillants à l'égard du crime organisé parce qu'ils savent qu'ils lui doivent.
Cela dit, la mafia italienne existe encore aujourd'hui très largement aux États-Unis, dans New Jersey, par exemple.
Mais toutes. On ne se débarrasse pas comme ça d'une mafia. Hein.
En tout cas, puisque la corruption est partout dans la société, Dominique Manotti, et notamment dans celle que dépeint Ahmed, il faut, dans ses romans, un homme providentiel. Et c'est là qu'apparaît la figure de l'enquêteur chez Ahmed. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette figure-là, absolument centrale, ce personnage-là?
Ah oui, il est central. Il n'est pas providentiel, mais il est central.
Pourquoi il n'est pas providentiel?
Il n'est pas providentiel parce que ce n'est pas quelqu'un qui représente le bien. Si vous voulez, tous les enquêteurs sont très très ambigus. Par exemple, Sam Spade dans Le Faucon Maltais. Si Le Faucon Maltais avait été un vrai bijou, c'est pas sûr du tout qu'il serait pas parti avec.
Oui, parce que Le Faucon Maltais s'avère être une statuette en plomb. Voilà.
Ouais. Donc là, il reste honnête. Bon, mais entre-temps, il a piqué la femme de son associé et il est très content quand son associé se fait descendre. Bon, faut quand même dire les choses absolument clairement, c'est un salopard, quoi. Sam Spade est un salopard.
Il faut dire aux auditeurs que vous avez un t-shirt, non pas avec un faucon, mais avec un corbeau.
C'est un merle.
Ah, c'est un merle? Oui. Oh, ben, il est dessiné un peu comme un corbeau. Cet enquêteur, Dominique Manotti, il a quand même une particularité qu'on relève peut-être pas souvent chez Ahmed, c'est qu'il est extrêmement solitaire. Est-ce que cette solitude de l'enquêteur, qui du coup est un critère psychologique, vous la ressentez très profondément? Et est-ce que ça ne donne pas quand même de la profondeur aussi à l'œuvre de cet écrivain?
Oui, absolument, ça c'est vrai. Il est très solitaire et ses aventures féminines sont toujours passagères. Quand en plus c'est Ned Beaumont dans La Clé de Verre, Ned est absolument extraordinaire, parce que la seule façon de le définir, c'est effectivement joueur professionnel. En plus, son rôle d'enquêteur tient au fait que, comme tous les joueurs professionnels, il a un coup d'avance, c'est-à-dire qu'il pense la situation avant les autres. Bon, ça, c'est ce qui le définit. Mais en plus, il est tubard.
Tuberculeux, oui.
Ouais. Et incroyablement, alors à la fois résistant et fragile. Et il a un rapport avec les femmes qui est totalement... Il les instrumentalise totalement. C'est-à-dire, bon, c'est... Et puis...
Mais il accepte ses faiblesses.
Oui.
Ce qui est rare, finalement, pour un personnage de détective privé.
Et il en fait une force. Il fait une force de l'acceptation de sa faiblesse. Et on a l'impression, si vous voulez, que son intelligence compense sa faiblesse physique. Et il finit par partir avec la femme de son copain, encore une fois. C'est récurrent chez Ahmed. Mais on a véritablement l'impression qu'il part avec la femme de son copain pour emmerder son copain. Ses relations avec la fille, elles sont... Bon, c'est pas un grand passionné.
Et cette solitude de l'enquêteur, cette solitude du détective privé, est-ce que c'est pas une figure de la modernité aussi? Est-ce que c'est pas une peinture de la modernité qui va vers effectivement des villes où on va vivre de plus en plus seul? Il n'y a pas une vision comme ça? Et en plus, aux États-Unis, où on sait que parfois, et notamment à l'époque, ce pays avait quelques années d'avance sur les transformations sociales qui allaient plus tard arriver en Europe. Donc, est-ce que ce n'est pas une figure de la modernité?
Peut-être. En tout cas, si vous voulez, cette solitude des grandes villes, c'est ce qui explique les mafias. Dans la mafia, vous n'êtes pas seul.
Oui, c'est une famille.
C'est une famille.
Ouais. Des héros, des anti-héros?
Ah, pour moi, des héros. Des héros, bon, les héros. J'aime beaucoup ces personnages ambigus. J'aime beaucoup ces personnages à la frontière, sur des lignes de crête. Ça, j'aime beaucoup. Et je crois que c'est cela qui nous parle. Enfin, en tout cas, c'est cela qui me parle vraiment. Je ne suis pas du tout. Je n'arrive pas à croire aux super-héros.
Il a été l'un des seuls, par exemple, à portraiturer des policiers homosexuels. On lui en a fait le reproche, d'ailleurs. C'était une nouveauté à l'époque. Et vous-même, d'ailleurs, vous avez fait des portraits de flics homosexuels. Donc, est-ce que, finalement, dans le décalage de la figure mythique du détective privé, pas que du détective privé, parce qu'en l'occurrence, dans Le Faucon Maltais, c'est un truand qui est homosexuel.
Oui, absolument. Oui.
Mais est-ce que, justement, dans ce décalage par rapport à ce qu'on attendrait, au fond, de ces archétypes, il n'y a pas aussi quelque chose de nouveau et d'intéressant?
En tout cas, ces détectives privés ne sont pas homo. Hein.
Non, pas les détectives privés. Ils n'étaient pas allés jusque-là. vous êtes allé jusque-là, je crois.
Oui.
Merci, Dominique Manotti. <musique> 15h30 sur France Culture, c'est le moment de retrouver notre séquence en compagnie des revues. Nous avons le plaisir d'être rejoints aujourd'hui par Christine Ferniaud du magazine Lire. Bonjour Christine.
Bonjour Mathieu.
Vous venez nous parler du numéro d'avril de Lire qui a une couleur bien noire puisqu'il s'agit d'un spécial polar.
Oui, chaque année c'est le spécial polar, mais il n'y a pas que ça parce qu'on a quand même... On parle toujours de toutes les littératures, des extraits, mais c'est vrai que celui-ci a une belle couleur, bien noire, avec une sélection de livres, les 10 meilleurs romans policiers, romans noirs, thrillers de ces derniers mois. Et en commençant par un auteur à nous, nouveau venu, qui s'appelle William Boyle. Boyle, hein, attention, hein, c'est difficile pour lui, avec un titre qui s'appelle Gravesend. C'est un nouveau venu dans le genre noir, un premier roman, mais qui est tout à fait dans la tradition. On est à New York, au sud de Brooklyn, et c'est assez sanguin, comme dirait Dominique Manotti, effectivement, mais extrêmement mélancolique. Il a été choisi pour être le numéro 1000 de la collection Rivage Noir, une collection de poches qui a été créée il y a 30 ans par François Guérif. C'était assez culotté parce que la logique, ça aurait été par exemple de mettre James Ellroy en numéro 1000, mais il crée déjà tellement l'événement que autant que l'événement soit total avec un total inconnu. Et puis, il y a aussi des choix dans ces 10 meilleurs de Français comme Emmanuel Grand, des Anglo-Saxons comme Shannon Kirk, et puis un Italien... qui connaît bien la mafia, comme Giancarlo de Cataldo, et puis des enquêtes, beaucoup de tendances noires.
Mais alors, quelle tendance, justement, est-ce qu'on peut encore imaginer dans ce genre qui est tout de même très codé ?
Eh bien, par exemple, un retour à la campagne. Généralement, c'est un genre littéraire qui aime bien les grandes villes, et c'est pas Dominique Manotti qui va me contredire. On a New York avec Richard Price, on a Le Cap avec Deon Meyer, on a Washington avec George Pelecanos, Los Angeles avec Michael Connelly, mais faut pas oublier la grande tradition de la nature, et puis de cette Amérique profonde, celle par exemple de Jim Harrison qui vient de nous quitter, hélas. Ou bien plus récemment de Ron Rash, qui parle tellement bien de la Caroline du Sud. Mais les Français sont retournés mettre leurs bottes et ils reviennent dans les villages, ils sont en plein exode rural. Alors ce sont de nouvelles voix du polar français qu'on a eu envie de mettre en valeur pour parler de cet exode. Ils s'appellent Franck Bouys, Sandrine Collette, Benoît Mainville... Patrick Delperdange, et ils aiment les coins perdus dans la montagne. Ils aiment bien les taiseux, les paysans, vous savez, un peu à la Raymond Depardon qui regarde ce qui se passe et qui semble toujours immobile. Ceux-là, eh bien, ils remâchent leur passé, ils ont de très vilains secrets. Et Franck Bouys particulièrement réussit bien ce type d'histoire qui s'achève forcément mal. Il a une écriture très descriptive, très captivante, très lancinante. Sandrine Collette, elle aime bien les lieux où il y a du vent, où les hommes en bavent jour après jour. Et Benoît Mainville, lui, il a choisi plutôt un petit village, une sorte de roman d'apprentissage où les jeunes n'en finissent pas de grandir et rêvent d'ailleurs en restant toujours sur place. C'est vrai. Ils ont toujours cette référence à Jim Harrison ou à Pierre Pelot qui les a précédés.
Alors, polar rural, mais aussi retour d'un genre qu'on croyait en recul, celui de l'espionnage.
Oui, on s'était dit à un moment qu'après la chute du mur de Berlin, eh bien, ça allait, le roman d'espionnage n'avait plus raison d'être. Et puis, John le Carré a montré l'exemple très vite avec des passions pour les grands trafics d'armes ou de médicaments. Et puis, il y a eu le terrorisme qui montre que l'espionnage a quand même du travail à fournir. Et beaucoup d'écrivains s'intéressent à ce monde du silence, en particulier Joseph Cannon, qui lui continue à être du côté de Berlin après-guerre, qui fouille les décombres de la ville, qui va d'est en ouest. Et puis des auteurs aussi comme Percy Kemp ou Olen Steinhauer, qui lui est plutôt dans le huis clos entre deux espions. Méfiez-vous, Mathieu, j'ai peur qu'on soit en train de nous surveiller.
Voilà, et puis rapidement pour terminer, un extrait d'un roman noir qu'on pourra trouver aussi, roman noir d'un auteur trop rare qui s'appelle Richard Price.
Richard Price, alors là c'est un peu ma faiblesse, il aime New York, les flics, les maraudes. Il avait commencé avec un livre comme Clockers, il est scénariste de The Wire et avec The Whites, il est là avec des héros fatigués, des flics qui aimeraient bien aller se coucher et qui n'y arrivent jamais parce qu'il y a toujours un meurtre au dernier moment. C'est toujours très poignant, il sera particulièrement représenté avec Quai du Polar à Lyon où il sera là et franchement je crois que je serai au premier rang.
Quai du Polar qui se tient en ce moment. Merci Christine Ferniaud. Je renvoie les auditeurs au numéro d'avril du magazine Lire qui est donc consacré en partie au polar. Et la compagnie des auteurs poursuit sa route dans les rues des villes malsaines, décrites par l'auteur du Faucon Maltais, Dashiell Hammett, à qui nous consacrons notre semaine Dernier Arrêt avec l'écrivain Jérôme Leroy.
La ville n'était pas jolie. Ses bâtisseurs, pour la plupart, avaient choisi le tape à l'œil. Peut-être avec un certain succès au début. Le temps passant, les hauts fourneaux dont les cheminées de briques se dressaient au sud devant une montagne morne avaient tout rendu uniformément crasseux en le recouvrant d'une suie jaunâtre. Le résultat était une ville laide de 40 000 habitants, nichée dans une gorge laide, entre deux montagnes laides, entièrement souillées par l'exploitation de la mine. Tendu au-dessus de la ville, un ciel brouillé semblait monter des hauts fourneaux. Le premier policier que je vis avait une barbe de 3 jours. Le deuxième portait un uniforme défraîchi auquel manquaient 2 boutons. Le troisième, planté au milieu du carrefour principal à l'intersection de Broadway et Union Street, réglait la circulation cigare au bec. Je cessais ensuite de les passer en revue. À 21h30, je pris le tram de Broadway et suivis les indications de Donald Wilson. Elles me conduisirent au coin d'une rue à une maison posée sur une pelouse, elle-même bordée d'une haie. La domestique qui m'ouvrit la porte m'annonça que M. Wilson n'était pas chez lui. Je lui expliquai que j'étais attendu quand une femme d'à peine 30 ans, blonde, mince et vêtue de crêpe vert, s'approcha. Son regard bleu resta de glace même lorsqu'elle m'adressa un sourire. Je répétai mes explications.
Mon mari n'est pas ici pour l'instant, mais s'il doit vous recevoir, il ne va plus tarder.
Jérôme Leroy.
Bonjour.
Vous avez reconnu cet extrait ?
Oui, c'est le tout début de Moisson Rouge.
C'était facile. Hein.
C'était facile.
Alors moi, ce que j'aime bien, c'est quand il dit « Le premier policier que je vis avait une barbe de 3 jours, le deuxième portait un uniforme défraîchi auquel manquait 2 boutons, le troisième réglait la circulation cigare au bec. »
Oui, mais ces trois lignes fondatrices, je crois même que Manchette les cite comme exemple de justement du fait que Hammett invente une forme profondément à ce moment-là. Là, on a finalement le résumé de ce qu'on a pu appeler l'esthétique comportementaliste ou behavioriste de Hammett, c'est-à-dire que on n'a pas de grand développement sur le fait que cette ville est complètement corrompue. On a simplement la description de 3 policiers avec des petits détails, des petits faits vrais, aurait dit Stendhal. Voilà, c'est juste bouton, barbe, il n'y a pas plus. Et cette absence du mot en trop, c'est sans doute ce qui fait de Hammett un écrivain majeur, oui.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très addictif quand même dans ce roman Moisson Rouge qu'on retrouvera peut-être moins, alors c'est peut-être un point de vue personnel, mais dans d'autres romans, là, c'est vrai qu'on entend les premières phrases, on a vraiment envie d'aller au bout.
Mais oui, oui, c'est le... Bah, d'abord, je crois que c'est, on a envie d'aller au bout, ne serait-ce que parce que effectivement, il y a une incertitude générale dès le départ. C'est-à-dire que c'est pas du tout Ahmed, à la fois un auteur réaliste, mais qui va complètement bouleverser, à mon avis, les canons du réalisme ou même du roman naturaliste américain qu'il y avait avant lui. C'est-à-dire que on est dans une petite ville de 40 000 habitants qui sera jamais nommée. Qui a d'ailleurs, c'est intéressant, qui a deux noms. Personneville, son nom officiel, et Poisonville, son surnom toxique. Ensuite, on est dans une ville industrielle. Enfin, c'est l'anti-glamour, et pourtant, il y a une forme de poésie, parce que le regard change complètement. Le regard amétien, c'est un regard poétique, à mon avis. C'est-à-dire que...
Elle est où, la poésie, dans la description
de... elle est tout simplement dans son économie, dans sa façon de... C'est un petit poème en prose. Enfin, il y a des petits poèmes en prose de rapprochement pour vous paraître incongru, mais pas à moi. Il y a des petits poèmes en prose de Baudelaire, par exemple, qui ont cette même couleur noire dans la façon de décrire la ville et de la décrire de manière totalement décalée.
En tous les cas, le terrain de jeu d'Ahmed, c'est clairement la ville, c'est la ville qui l'intéresse et on est partout dans l'univers urbain, la campagne ne l'intéresse pas du tout.
Alors, Ahmed, c'est pas franchement un rural justement. Enfin, il est pas dans le courant qui redevient un petit peu, même s'il y a déjà eu avant un courant de polar rural. Mais non, Ahmed est une pure créature.
Mais la ville est très importante. C'est presque un personnage.
C'est capital. Oui, mais je pense que c'est lié aussi à ce que sont les États-Unis à ce moment-là, c'est-à-dire où la ville telle qu'on se la représente, la ville qui est un archétype comme ça. Apparaît à ce moment-là et est lié peut-être aussi à ce qu'a dit Dominique Manotti, c'est-à-dire aux métamorphoses, pour aller vite, aux métamorphoses du capitalisme à cette époque-là, qui commence à faire fusionner de manière... alors moi, c'est pour ça que Moisson Rouge, à mon avis, à la fois invente une forme, mais enfin, en fait, ça va ensemble, nous raconte quelque chose de nouveau et le fait de manière nouvelle. C'est peut-être ce qui fait... c'est pour ça que... Et il le fait en 1929. Ce qui n'est pas, enfin, le roman, même s'il est écrit avant, en 4 épisodes, Black Mask, apparaît en 1929. Donc, tout ça fait que, effectivement, on se trouve face à un chef-d'œuvre addictif, comme vous dites. Et effectivement, la ville, c'est le lieu où se produit cette espèce de fusion entre les milieux d'affaires, la mafia, la police, les milieux politiques qui font que, eh ben, effectivement, tout ça assure l'ordre social. Ou en tout cas, assure l'ordre social dans le cadre. C'est l'ordre. À l'intérieur, c'est l'horreur. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est un roman extrêmement... Je ne sais pas s'il est sanguin, mais je suis sûr qu'il est sanguinaire, Moisson Rouge, pour le coup.
Je ne sais pas si vous avez en tête cette nouvelle qui s'appelle Cauchemarville.
Oui, mais qui est... pas exactement, non.
Et qui se termine par un immense incendie purificateur, et la ville comme ça disparaît, et du coup, il y a presque quelque chose de religieux, enfin, c'est Sodome et Gomorre, quoi.
Ouais,
la purification par le feu de cette ville.
Oui, je suis pas sûr que ce soit l'optique vraiment amétienne qui serait celle d'un jugement dernier, parce que précisément, ce qui est extrêmement intéressant chez Ahmed, c'est qu'il n'y a pas de rédemption. C'est-à-dire que d'une société en désordre, incohérente, injuste, violente, mouvante, et à la fin, ça ne vaut guère mieux. Éventuellement, le personnage Continental Hop, a pu se sentir un peu mieux. En ayant fait se massacrer à peu près tout le monde, parce que c'est quand même cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'extrêmement cynique qui monte les différentes factions, mais c'est pas spécialement pour aller émanciper la classe ouvrière. C'est-à-dire que c'est uniquement parce que ça lui semble absolument irrespirable. Et il est intéressant, ce personnage du Continental Hop, parce que lui aussi, c'est un personnage que je trouve profondément poétique au sens premier du terme. C'est-à-dire que il a pas de nom, il a pas de visage. Il a un nom qu'il réduit à sa fonction. On est là avec quelque chose de complètement à la fois angoissant et nouveau. Et moi, il me fait penser à vous avez évoqué tout à l'heure le personnage de l'homme seul comme étant la caractéristique du héros amétien. Mais c'est un...
Seul et solitaire, oui.
Seul et solitaire, mais c'est d'une solitude assez nouvelle. C'est pas la solitude romantique, moi seul contre le monde. C'est une solitude qui est propre au XXe siècle, à mon avis. Et bon, c'est une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est née après la guerre de 14 et qu'on retrouve en France finalement. Continental Hop, il est pas très loin de L'étranger de Camus. Il n'est pas très loin du Roquentin de Sartre dans La Nausée. Il n'est pas très loin de tout du Feu Follet de Drieux. Il n'est pas très loin de tous ces personnages qui sont dans une solitude radicale.
Alors c'est intéressant parce que vous ne citez que des romans français, Jérôme Leroy. Et oui. Pourtant, quand on pense à Hamet, on pense aux États-Unis. Mmh. Il a presque créé un genre américain à lui tout seul. Vous avez cité Baudelaire, vous parlez des romantiques. Et vous avez parlé aussi de Paul Morand.
Oui, pas aujourd'hui, mais ça m'est arrivé. Oui.
Mais ça vous est arrivé. Oui. Quel rapport entre Paul Morand, l'homme des salons, et Dashiell Hammett, l'homme du bas fond.
Justement, Chandler disait qu'il avait pris le crime dans l'histoire du vase retiré du salon et jeté dans la rue. La rapidité, l'efficacité.
L'homme pressé, c'est
l'absence,
un homme pressé.
Non, mais surtout le style, c'est-à-dire l'absence du mot en trop. C'est-à-dire une espèce de précision assez étonnante.
Et puis Morand a aussi décrit New York, il a saisi.
Alors j'avais oui effectivement il y a eu non plus oui il y a le Morand dans New York Morand dans New York effectivement a un passage je l'ai plus en tête mais que j'avais cité oui dans un papier qui était justement cette description enfin Morand saisit sur le vif ces métamorphoses que New York est un texte de 1930 saisit sur le vif cette mafia, cette violence urbaine, ce gangstérisme de ce crime de organisé comme on disait à l'époque, le crime organisé, voilà.
Mais du coup, c'est un Américain qui a récupéré comme ça une part de la littérature de la vieille Europe pour en faire autre chose.
Oui, c'est peut-être en tout cas ça circule à cette époque-là. C'est évident parce qu'il ne faut pas oublier que Dashiell Hammett n'apparaît pas avec la série noire après la guerre, mais l'essentiel de ses 5 romans sont déjà traduits avant-guerre chez Gallimard dans des collections qui s'appellent, je crois, le Scarabée d'or ou le Grand Roman d'aventure. Mais c'est déjà lu. Hammett est déjà lu dans les années 30 en France.
I stay a friend for a source. Little rock of force and they juicy. Dress me up in stitsy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of style. If you believe or deceive, common sense says shouldn't you see? Let me take you down the corridors of my life. And when you want to, you want to your preference. To answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor. I trust to judge you from my labor. The bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the evenings ensures the struggle for my family. We're hungry, beware.
Et dans les romans d'Hammett, c'est comme dans les chansons de Tricky, Hell Around the Corner, l'enfer, au coin de la rue. Jérôme Leroy, Hammett parle toujours des commissaires, des détectives privés, et jamais des commissaires de police. Et au fur et à mesure de la lecture, on se demande s'il n'y a pas justement une défiance par rapport à ce que représente la police, c'est-à-dire par rapport à ce que représente l'État. Et du coup, il est quand même du côté du privé.
Oui, c'est très très ambigu malgré tous ces rapports avec le privé, parce que le premier vrai boulot qu'il a à 20 ans à peine, enfin, c'est d'être engagé chez Pinkerton. Alors, les rapports qu'il a avec Pinkerton, qui était l'agence de police privée la plus... Enfin, en fait, c'était la seule qui avait des compétences dans tous les États-Unis. Parce que
c'est une espèce de pieuvre,
malgré tout. Oui, non, mais surtout, le FBI n'existait pas. Il y avait besoin d'une organisation policière qui puisse intervenir de manière, à travers différents états. Il se trouve qu'elle était privée. Parce que, donc, le FBI... Et Hammett trouve son premier travail là. Alors, c'est assez intéressant, les rapports de Hammett avec Pinkerton et d'ailleurs son premier supérieur à Baltimore, parce que c'est à la fois quelqu'un qu'il aime beaucoup parce qu'il lui apprend un métier, il lui apprend à voir le monde. Il faut jamais oublier qu'il y a un regard de... Alors c'est pas simplement une histoire de documentation, parce que c'est ce qu'a beaucoup plu au lecteur de Hammett au début dans les pulps. C'était le premier à raconter des choses où on sentait quand même qu'il savait de quoi il parlait, quoi. Là, c'est Pinkerton, c'est très ambigu parce que c'est à la fois le moment où il apprend un métier, il devient un homme, Et puis il a un contact avec la violence, les bas-fonds, toute une catégorie de la population qui n'entrait pas si fréquemment dans le roman, quoi qu'on en dise, avant lui. Mais en même temps, il s'aperçoit que la Pinkerton est très souvent utilisée comme briseuse de grève. C'est-à-dire, est vraiment en gros le bras armé du grand capitalisme américain.
Et ça va marquer son entrée en politique.
C'est-à-dire que si j'en crois les biographies, la correspondance, enfin quand il en reparle, parce que la correspondance commence après cette période, mais c'est à mon avis, enfin c'est à ce moment-là qu'il a une forme de prise de conscience politique de ce qui se passe, même si son engagement est explicite et plus tardif et date des années 30.
Mais du coup, comment vous voyez son rapport à l'État ? Est-ce qu'il n'y a pas, je repose cette question, une défiance par rapport à l'État central ?
C'est un rapport un peu américain à l'État. C'est-à-dire qu'on peut être très à gauche, c'est très paradoxal, mais on peut être très à gauche aux États-Unis en se méfiant de l'État. Oui, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, il a ce côté méfiance de l'État. Il faut quand même pas oublier qu'il va être poursuivi au moment du McCarthyisme et que c'est quand même l'État fédéral qui le poursuit. Il va faire de la prison à cause de lui, mais c'est pas pour autant qu'il est sans foi ni loi, si je puis dire. Ça aussi, c'est propre aux auteurs de romans noirs et à leurs personnages, c'est que souvent il y a une espèce de code de valeurs qu'ils se créent eux-mêmes.
Oui, mais il y a un autre État qui le regarde différemment, c'est l'URSS. Et à un moment donné, il est stalinien, il se déclare favorable au procès de Moscou. Oui. Alors cet État-là ne le dérange pas.
Moi, c'est pas que ça me dérange pas.
Non, lui.
Oui, non, mais lui, ça le dérange pas. Je pense que il est loin. Je cherche pas ni à l'excuser de dédouaner. C'est très compliqué de savoir comment les gens auraient réagi à l'époque. Est-ce que effectivement, Staline, ça, aussi surprenant que ça pouvait nous paraître, dans les années 30, au moment où le fascisme montait à peu près partout en Europe, apparaissait comme un rempart. À plus forte raison à mettre qui ne pouvait pas. Ne savait pas ce qu'était la réalité du stalinisme, elle lui apparaissait simplement comme étant un rempart à cette espèce d'horreur qui montait en Europe. Faut savoir qu'il est d'une génération, lui il a pas pu le faire, il était déjà volontaire pour la Seconde Guerre mondiale, mais il est d'une génération d'écrivains qu'on donnait de leur temps, parfois de leur sang, pour la guerre d'Espagne. Par exemple, au même moment. Et donc les rapports de Hamet avec le communisme, je crois, sont pas des rapports qu'il faudrait juger à l'aune idéologique d'aujourd'hui.
Jérôme Leroy, votre rapport, vous, à Hamet en tant qu'écrivain, qu'est-ce que c'est ? Je sais que vous avez écrit une nouvelle, par exemple, vous avez imaginé, pour les 13-14 ans, vous avez imaginé une enquête d'Hamet à la Pinkerton. Mais alors, c'est une enquête qui se passe en 1951, alors qu'il n'est pas à la Pinkerton.
La nouvelle commence en 1951, il se souvient pendant le procès du McCarthyisme d'avoir aidé. Enfin, j'imagine justement dans cette nouvelle. Enfin, je suis pas seul. Hein, on est tout un gang. C'est le cas de le dire.
Réuni dans
ce recueil par Nathalie Bonnat. Que vous receviez précédemment. Tout un gang. Moi, j'imaginais simplement effectivement qu'il voyait dans la foule de ce jour de juillet 51 surchauffé à New York où il apprend qu'il va quand même partir 20 semaines en tôle parce qu'il ne dépend, il ne balance aucun nom. Enfin, c'est pas Elia Kazan, hein. C'est lui, il balance personne. Il apprend ça.
Il
reconnaît dans la foule de l'audience le regard d'une femme qui a à peu près son âge et il s'aperçoit que, en fait, c'est la fille qu'il a aidé la fille d'un patron qui était amoureuse d'un syndicaliste noir et qu'il a aidé à s'enfuir. Voilà. C'est donc purement, la consigne de Nathalie Bonnat était assez simple. Comme on ne sait pas exactement ce qu'il a mené comme enquête, on a 2-3 ans d'absolument libre. Parce qu'il était comme ça, envoyé. Donc, moi, c'était ce personnage. Moi, j'ai une admiration. Alors, pour l'homme, Hamet, j'ai une admiration pas sans borne, parce qu'il n'est pas dépourvu de défauts. Et puis, mais en tout cas, je trouve que c'est, comme le dit le titre de la correspondance, un type bien. Voilà. Et alors, littérairement, en tout cas, là, il faudrait parler peut-être de Manchette. Moi, via Manchette, c'est effectivement des gens qui ont énormément compté dans ma façon d'appréhender le genre.
Une chose qu'il vous a apprise en quelques secondes ?
essayer d'aller le plus vite possible, d'aller le plus vite possible. Voilà, de pas avoir les 100 pages en trop.
Merci Jérôme Leroy.
Holy, holy, holy.
h 54 sur France Culture, voici venir le moment de notre pause quotidienne de lecture de poésie. Cette semaine, Jacques Bonafé vous propose d'écouter des poèmes de Jacques Rebottier, poète français qui compose, écrit, déclame, performe aussi, car il est à la fois compositeur, metteur en scène, écrivain et aussi comédien. Mais dans tous les cas, il est un poète du langage, Jacques Bonafé.
Bonjour. Jacques Rebottier, origine de l'homme. Ses fables invraisemblables, c'est un conteur, oui, en quelque sorte, un conteur-compositeur. Un poète, oui, un poète, oui, deux poètes, trois poètes, plein de poètes. S'il joue sur les mots, c'est en fait pour parler des choses qu'on ne peut pas dire. Énorme, hein, comme Jarry, oui, comme rarement Jarry. Et c'est aussi un géniteur. Oui, il a écrit la Genèse, le prologue à la description de l'homme et la description de l'homme. C'est vertical. L'édition. Regardez, chapitre 11, Homme-ombre. L'homme est doublé sur le sol d'une flaque grise allant d'extrêmement transparent à noir très foncé selon luminosité qui le précède ou le suit comme son ombre. Elle l'empêche de tomber trop souvent. 2. La flaque gire et vire, fait des voltes, elle vole aléatoire dans ses évolutions, danse des révolutions. Mais il y a un chapitre 11 bis... 11 bis 1. Que voit-on à la surface de la Terre? Des hommes. Que voit-on qui les suivent? Des ombres. Qu'y a-t-il à l'intérieur de la Terre? Les hommes ombres. 11 bis 2. Qui ça? Même réponse. 11 bis 3. Les hommes ombres sont placés sous la Terre et manœuvrent les hommes, comme on fait danser une danseuse d'un aimant placé sous sa jupe. Non, la table. 11 bis 4. Qui sont les vrais? Les hommes, leurs ombres ou ceux qui archent sous la Terre? 11 bis 5, les vrais sont ceux qui archent sous la terre. Les ombres des hommes ne sont en réalité que leurs ombres, et les prétendus hommes, les ombres de leurs ombres. 11 bis 6, démonstration. Démonstration a été perdue. 11 bis 7, révélation. Dans toutes les sphères, il y a des pilotes. Chacune des boules qui sont au monde contient un pilote qui la guide comme il peut. 11 bis 8, exemple de la boule zéro. Non, on a trop réfléchi. Arrête. Faites-nous de la musique, monsieur Rebottier. Musiquez-nous le vent, s'il vous plaît. J'aime le vent. J'aime le vent. J'aime le vent qui vient, qui va, qui vient, qui va. J'aime le vent qui fait du vent, qui va, qui vient. J'aime le vent qui vient, ça fait du bien. Le vent, ça fait rien. J'aime le vent qui vient. J'aime le vent qui vente. J'aime le vent, j'aime le vent. J'aime le vent qui vient. J'aime le vent qui nous tient. J'aime le vent qui rien. Bon vent, j'aime le vent, c'est coup. C'est vient, c'est va qui vient. Le vent qui nous fout des coups. Le vent qui nous fout des grands coups. Le vent qui sait tout de nous, c'est va et c'est vient. Le vent qui tient à nous. Le vent qui va et qui vient, le vent qui tient à nous faire savoir qu'il nous tient, c'est tout. Le vent qui cherche à nous faire savoir tout, tout. Le vent qui est fou de nous, j'aime le vent qui tient ses comptes, le vent qui nous fait des histoires, j'aime le vent, du vent. J'aime le vent qui nous dit qu'il est fou, j'aime le vent qui pense à nous, qui pensons qu'il est fou, j'aime le vent qui se fout de nous et de ce qu'il pense et de nous, j'aime le vent qui nous fait tenir aucun compte de ce qui se dit de nous, c'est tout.
Parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Jacques Bonafé lisait des textes de Jacques Rebottier dans la compagnie des auteurs pour clore une dernière émission consacrée à l'écrivain américain Dashiell Hammett. Merci beaucoup à Dominique Manotti, dont le roman L'Évasion vient de reparaître en folio policier. Un grand merci également à Jérôme Leroy. Je rappelle la parution en folio policier également de votre dernier livre, L'Ange Gardien, prix Quai du Polar 2015. Demain, c'est Mathieu Conquet que vous retrouverez pour Continent Musique. Et en attendant, n'oubliez pas le podcast, la réécoute en ligne, Twitter et Facebook.
C'est
Cette émission était réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Dophar Guéride. Merci à Pascaline Bonnet, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Sophie de Lombarès. Dans un instant, la marche des sciences, Aurélie Luneau.